La comptabilité de Tintin. Il est vrai que j'ai donné, depuis que je suis arrivé, d'assez grosses sommes. Un matin, 800 francs, l'autre jour, 1000 francs, un autre jour, 300 écus. Lettre de Madame de Sévigné à Madame de Grignan, 15 juin 1680. Tintin, dès son arrivée dans la cour de l'école, commença par prélever auprès de ceux qui avaient leur cahier une feuille de papier brouillon afin de confectionner tout de suite le grand livre de caisse sur lequel il inscrirait les recettes et les dépenses de l'armée de Longeverne. Il reçut ensuite des mains des cotisants les 35 sous prévus, empocha des payeurs en nature 7 boutons de taille et de forme différentes, plus 3 bouts de ficelle, et se mit à réfléchir profondément. Toute la matinée, le crayon à la main, il fit des devis, retranchant ici, rajoutant là. À la récréation, il consulta le Braque et Camus et la Crique, les principaux en somme, sans qui du cours des boutons, du prix des épingles de sûreté, de la valeur de l'élastique, de la solidité comparée des cordons de souliers, puis en fin de compte, résolut de prendre conseil de sa sœur Marie, plus versée que tous dans ces sortes d'affaires et cette branche du négoce. Au bout d'une journée de consultation et après une contention d'esprit qui faillit à plusieurs reprises lui mériter des verbes et la retenue, il avait barbouillé des feuilles de papier puis dressé tant qu'à peu près, et sauf modification, le projet de budget suivant qu'il soumit le lendemain de l'arrivée en classe à l'examen et à l'approbation de l'Assemblée générale des camarades. Budget de l'armée de Longeverne. Bouton de chemise, 1 sou. Bouton de tricot et de veste, 4 sous. Bouton de culotte, 4 sous. Crochet de derrière pour pattes de pantalon, 4 sous. Ficelle de pain de sucre pour bretelles, 5 sous. Lastique pour jarretière, 8 sous. Cordon de soulier, 5 sous. Agrafe de blouse, 2 sous. Total, 33 sous. Reste en réserve, 2 sous en cas de malheur. Et les aiguilles et le fil que t'as oublié, observa la Crique. Hein? On serait des propres cocos si j'y songeais pas. Avec quoi qu'on se raccommoderait? C'est vrai, avoua Tintin. Alors changeons quelque chose. Je suis d'avis qu'on garde les deux ronds de réserve, émit le Braque. Ça oui, approuva Camus. C'est une bonne idée. On peut perdre quelque chose. Une poche peut être percée. Faut songer à tout. Voyons, reprit la Crique. On peut rogner dessous sur les boutons de tricot. Ça ne se voit pas, le tricot. Avec un bouton au-dessus, deux au plus, ça tient assez. Il n'y a pas besoin d'être boutonné tout du long comme un artilleur. Et Camus, dont le grand frère était dans l'artillerie de forteresse et qui buvait ses moindres paroles, entonna là-dessus, guilleré et à mi-voix, ce refrain entendu un jour que leur soldat était venu en permission. Rien n'est si beau qu'un artilleur sur un chameau, rien n'est si vilain qu'un fantassin sur une putain. Toute la bande, éprise de choses militaires et enthousiaste de nouveautés, voulut apprendre aussitôt la chanson que Camus dut reprendre plusieurs fois de suite. Et puis on en revint aux affaires, et en continuant l'épluchage du budget, on trouva également que 4 sous pour des boucles ou crochets de pantalon, c'était exagéré. Il n'en fallait jamais qu'une par falzar. Encore beaucoup de petits n'avaient-ils pas de culottes avec pas de boucles en derrière. Donc en réduisant à 2 sous ce chapitre, cela irait encore, et cela ferait 4 sous de disponibles à employer de la façon suivante. 1 sou de fil blanc, 1 sou de fil noir, 2 sous d'aiguille assortie. Le budget fut voté ainsi. Tintin ajouta qu'il prenait note des boutons et des ficelles que lui avaient remis les payeurs en nature et que, le lendemain, son carnet serait en ordre. Chacun pourrait en prendre connaissance et vérifier la caisse et la comptabilité à toute heure du jour. Il compléta ses renseignements en confiant en outre que sa sœur Marie, la cantinière de l'armée, si on voulait bien, avait promis de lui confectionner un petit sac à coulisses comme ceux où ce qu'on mettait les billes, pour y remiser et concentrer le trésor de guerre. Elle attendait seulement de voir la quantité que ça ferait, pour ne pas le faire ni trop grand ni trop petit. On applaudit à cette offre généreuse et la Marie Tintin, bonne amie comme chacun savait du général Le Braque, fut acclamée cantinière d'honneur de l'armée de Longeverne. Camus prononça également que sa cousine, la Tavie des Planches, se joindrait aussi souvent que possible à la sœur de Tintin et elle eut sa part dans le concert d'acclamation. Bacaillé toutefois n'applaudit pas, il regarda même Camus de travers. Son attitude n'échappa point à la Crique, le vigilant, et à Tintin, le comptable, et ils se dirent même qu'il devait y avoir du louche par là-dessous. « Ce midi, fit Tintin, j'irai avec la Crique acheter le fourbi chez la mère Maillot. » Va plutôt chez la Julode, conseilla Camus. Elle est mieux assortie qu'on dit. C'est tous des fripouilles et des voleurs, les commerçants, trancha pour les mettre d'accord le braque, qui semblait avoir, avec des idées générales, une certaine expérience de la vie. Prends-en, si tu veux, la moitié chez l'un, la moitié chez l'autre. On verra pour une autre fois où ce qu'on est le moins étrillé. Vaudrait peut-être mieux acheter en gros, déclara Boulot. Il y aura plus d'avantages. Après tout, fais comme tu voudras, Tintin. T'es trésorier. Arrange-toi. Tu n'as qu'à montrer tes comptes quand tu auras fini. Nous, on n'a pas à y fourrer le nez avant. La façon dont le braque émit cette opinion coupa la discussion, qui eût pu s'éterniser. Il était temps d'ailleurs, car le père Simon, intrigué de leur manège, l'oreille aux écoutes sans faire semblant de rien, passait et repassait pour essayer de saisir au vol quelques bribes de leur conversation. Il en fut pour ses frais, mais il se promit de surveiller avec soin le braque, qui donnait des signes manifestes et extrascolaires d'exaltation intellectuelle. La crique, ainsi appelée parce qu'il était sec comme un coucou, mais par contre éveillé observateur autant que tous les autres à la fois, éventa la pensée du maître d'école. Aussi, comme Tintin se trouvait être en classe le voisin du chef, et que l'un pinçait, l'autre pourrait se trouver compromis et fort embarrassé pour expliquer la présence dans sa poche d'une somme aussi considérable, il lui confia qu'il eut, durant le cours de la séance, à se méfier du vieux dont les intentions ne lui paraissaient pas propres. À 11 h, Tintin et la crique se dirigèrent vers la maison de la Julode, et après avoir salué poliment et demandé un sou de bouton de chemise, ils s'enquirent du prix de l'élastique. La débitante, au lieu de leur donner le renseignement sollicité, les fixa d'un œil curieux et répondit à Tintin par cette doucereuse et insidieuse interrogation.
« C'est pour votre maman ?»«
Non, intervint la crique défiant, c'est pour sa sœur. » Et comme l'autre, toujours souriante, leur donnait des prix, il poussa légèrement du coude son voisin en lui disant « Sortons !» Dès qu'ils furent dehors, la crique expliqua sa pensée. « T'as pas vu cette vieille bavarde qui voulait savoir comment, pourquoi, ousque, quand, et puis quoi encore? Si nous avons envie que tout le village le sache bientôt que nous avons un trésor de guerre, il n'y a qu'à aller acheter chez elle. Vois-tu, il ne faut pas prendre ce qu'il nous faut tout d'un coup, ou bien cela donnerait des soupçons. Il vaut mieux que nous achetions un jour une chose, l'autre jour une autre, et ainsi de suite. » Et quant à aller encore chez cette sale câble-là, jamais. Ce qu'il y a encore mieux, répliqua Tintin, vois-tu, c'est d'envoyer ma sœur Marie chez la mère Maillot. On croira que c'est ma mère qui l'envoie en commission, et puis, tu sais, elle s'y connaît mieux que nous pour ces affaires-là. Elle s'est même marchandée, mon vieux. T'es sûr qu'elle nous fera avoir de la bonne mesure de ficelle et 2 ou 3 boutons par-dessus? T'as raison, convint la crique. Et comme il rejoignait Camus, sa fronde à la main, en train de viser des moineaux qui picoraient sur le fumier du père Gugu, ils lui montrèrent les boutons de chemise en verre blanc cousus sur un petit carton bleu, il y en avait 50, et ils lui confièrent qu'à cela se bornait leur achat du moment, lui donnèrent les raisons de leur abstention prudente, et lui affirmèrent que, pour 1 heure, tout serait quand même acheté. De fait, vers 12h30, comme le braque sortant de table se rendait en classe les mains dans les poches, en sifflant le refrain de Camus alors fort à la mode parmi eux, il aperçut, l'air très affairé, sa bonne amie se dirigeait vers la maison de la mère Maillot par le trage des cheminées. Comme personne n'était à ce moment sur le pas de sa porte et qu'elle ne le voyait pas, il attira son attention par un tiruit discret qui la prévint de sa présence. Elle sourit puis lui fit un signe d'intelligence pour indiquer où elle allait. Et le braque, tout joyeux, répondit lui aussi par un franc et large sourire qui disait la belle joie d'une âme vigoureuse et saine. Dans la cour de l'école, dans le coin du fond, tous les yeux des présents fixaient obstinément et impatiemment la porte, espérant d'instant en instant l'arrivée de Tintin. Chacun savait déjà que la Marie s'était chargée de faire elle-même les achats et que Tintin l'attendait derrière le lavoir pour recevoir de ses mains le trésor qu'il allait bientôt présenter à leur contrôle. Enfin, il réapparut, précédé de la crique et un « Ah !» général d'exclamation salua son entrée. On se porta en masse autour de lui l'accablante question. « As-tu le fourbi ?» Combien de boutons de veste pour 1 sou? Y en a-t-il long de ficelle? Viens voir les boucles. Est-ce que le filet est solide? Attendez, nom de Dieu! Gronda le braque. Si vous causez tous à la fois, vous n'entendrez rien du tout. Et si tout le monde lui grimpe sur le dos, personne ne verra. Allez, faites le cercle. Tintin va tout nous montrer. On s'écarta à regret, chacun désirant se trouver être le plus près du trésorier et palper si possible le butin. Mais le braque fut intraitable et défendit à Tintin de rien sortir de sa profonde avant qu'il ne fût absolument dégagé. Quand ce fut fait, le trésorier triomphant tira un à un de sa poche divers paquets enveloppés de papier jaune et dénombra. 50 boutons de chemise sur un carton.
Oh merde!
24 boutons de culotte. Ah ah! 9 boutons de tricot, un de plus que le compte, ajouta-t-il. Vous savez qu'on n'en donne que 4 pour un sou.
C'est la Marie, expliqua Lebrac, qu'il a eu en marchandant.
4 boucles de pantalon, un bon mètre de lastique. Et Tintin l'étendit pour faire voir qu'on n'était pas grugé.
2 agrafes de blouse.
Sont-elles belles, hein? Fit Lebrac, qui songeait que l'autre soir, s'il en avait eu une, peut-être. Enfin. Bref.
5 paires de cordons de souliers, renchérit Tintin.
10 mètres de ficelle, plus un grand bout de rabiot qu'elle a eu parce qu'elle a acheté par beaucoup à la fois.
11 aiguilles, une de plus que le compte, et une pelote de fil noir et une de blanc.
À chaque exposition et dénombrement,
des « oh » et des « ah » des « foutres », des « merdes »
exclamatifs et admiratifs saluaient le déballement de l'achat nouveau.
« Chico !»
cria tout à coup Tigibus, comme s'il eût joué à poursuivre un camarade. Mais à ce signal d'alarme, annonçant l'arrivée du maître, tout le monde se mêla tandis que Tintin fourrait pêle-mêle et entassait dans sa poche les divers articles qu'il venait de déballer. La chose se fit si naturellement et d'une façon si prompte que l'autre n'y vit que du feu. Et s'il remarqua quelque chose, ce fut l'épanouissement général de toutes ces frimousses qu'il avait vues l'avant-veille, si sombres et si fermées.
« C'est étonnant, pensa-t-il, combien le temps, le soleil, l'orage, la pluie ont d'influence sur l'âme des enfants. Quand il va tonner ou pleuvoir, on ne peut pas les tenir. Il faut qu'ils bavardent et se chamaillent et se remuent. Quand une série de beaux jours s'annonce, ils sont naturellement travailleurs et dociles et gais comme des pinsons.
Brave homme qui ne soupçonnait guère les causes occultes et profondes de la joie de ses élèves, et le cerveau farci de pédagogie fumeuse cherchait midi à 14 heures. Comme si les enfants, vite au courant des hypocrisies sociales, se livraient jamais en présence de ceux qui ont sur eux une parcelle d'autorité. Leur monde est à part. Ils ne sont eux-mêmes, vraiment eux-mêmes, qu'entre eux, et loin des regards inquisiteurs ou indiscrets. Et le soleil, comme la lune, n'exerçait sur eux qu'une influence en l'occurrence bien secondaire. Les Longevernes commencèrent à se poursuivre, à se courater dans la cour, se disant lorsqu'ils se rejoignaient.
« Alors, ça y est, c'est ce soir qu'on leur y fout.
Ce soir, oui.
Ah, nom de Jus, ils n'ont qu'à venir. Qu'est-ce qu'on va leur passer ?»
Un coup de sifflet, puis la voix naturellement rauque du maître. « Allons, en rang, dépêchons-nous » interrompirent ces évocations de bataille et ses perspectives de prouesses guerrières futures.